Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue, si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan dans notre débat du jour sur la situation en Turquie, où le procès de 300 participants présumés au coup d'État raté du 15 juillet dernier s'est ouvert ce matin. Un procès hors norme, comme on dit, compte tenu du nombre d'accusés. Une salle de 12 500 mètres carrés a été construite pour l'occasion. Et des chiffres hors normes, eh bien la Turquie en connaît beaucoup depuis cet été. Avec l'état d'urgence instauré au lendemain du putsch avorté, le parti au pouvoir, l'AKP, a organisé une épuration massive de la fonction publique, 130 000 fonctionnaires limogés, 44 000 arrêtés, tous sanctionnés pour des liens supposés avec la confrérie islamiste de Fethullah Gülen, ennemi numéro 1 du président Erdogan. Le pouvoir en a aussi profité pour s'en prendre à tous ceux qu'il suspecte de complicité avec la rébellion kurde du PKK. Résultat, 3 000 personnes arrêtées, dont 59 députés du parti kurde HDP et ses deux coprésidents. Un pouvoir fort donc, et qui aimerait l'être encore plus. Un référendum pour ou contre les pleins pouvoirs présidentiels aura lieu le 16 avril. Si le oui l'emporte, le président Recep Tayyip Erdogan portera une triple casquette, président donc, mais aussi chef du gouvernement et chef du parti majoritaire. Y a-t-il un espace de débat dans la Turquie d'aujourd'hui ? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Dorothée Schmidt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes. Vous dirigez le programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut des Relations Internationales, l'IFRI. Et puis vous venez de publier, il y a quelques semaines, chez Taillandier, La Turquie en 100 questions. En face de vous, pour discuter, Selçuk Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Alliance des juristes franco-turcs, conseiller juridique du consulat de Turquie à Paris. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous faire réagir sur ces chiffres que j'ai cité dans l'introduction, donc 130 000 fonctionnaires limogés pour des liens supposés avec la confrérie, 3 000 personnes arrêtées pour leur soutien présumé au PKK. Est-ce que le pouvoir, Selçuk Demir, n'a pas profité quand même de cette tentative de putsch 15 juillet pour éradiquer toute forme d'opposition aujourd'hui en Turquie ?
Le pouvoir, madame, essaie tant bien que mal de lutter contre toutes ces formes d'instabilité interne et externe qui frappent la Turquie depuis maintenant plusieurs mois. On a, vous le savez, une tentative de coup d'État du 15 juillet dernier qui a été extrêmement violente, avec près de 300 morts, des milliers de blessés, une tentative d'assassinat du président de la République, mais aussi des bâtiments publics qui ont été frappés, des avions de chasse F-16, des chars qui ont tiré sur des civils. Et le procès d'ailleurs qui commence, c'est justement le procès de ces militaires qui devront s'expliquer et qui devront donner leur version des faits.
Mais ma question, elle ne porte pas sur la réalité du coup d'État, mais plutôt sur l'ampleur de ce qui s'est passé derrière. 130 000 fonctionnaires limogés. Est-ce que 130 000 fonctionnaires ont des choses à se reprocher en Turquie?
Déjà, je me permets peut-être de corriger vos chiffres. On n'a certainement pas 130 000 fonctionnaires limogés. Il y a eu à peu près 70 000 fonctionnaires qui ont été suspendus. Le tiers a été réintégré. Il y a une enquête pénale massive, madame, aujourd'hui, et d'ailleurs qui se concrétise par un procès de ces 300 personnes. Et pendant le temps de l'enquête, en effet, la justice turque a dû suspendre un certain nombre de fonctionnaires pour mener à bien les actes d'investigation qui sont indispensables pour faire la vérité sur la responsabilité des uns et des autres face au cataclysme qui a été cette tentative de coup d'État. Il faut laisser la justice travailler. La justice travaille. Et d'ailleurs,
il y a aussi
les personnes
en matière de justice des journalistes qui sont aujourd'hui en détention.
Les personnes qui seront déférées, devant cette juridiction et le procès qui commence aujourd'hui pourront s'expliquer, pourront se défendre dans le cadre du respect du contradictoire.
Alors sur ces chiffres, Dorothée Schmidt, donc parmi toutes ces personnes dont on vient de parler, qui ont été arrêtées, qui ont été suspendues, qui ont parfois été réintégrées, combien, selon vous, puisqu'on en est un peu à une guerre de chiffres, avaient effectivement des choses à se reprocher? Est-ce qu'on est dans des chiffres comme on vient d'avoir, ou est-ce que c'est beaucoup moins de personnes?
C'est très compliqué d'avoir cette guerre des chiffres, parce que moi j'ai les mêmes chiffres que vous, je peux pas contester les chiffres que donne Selçuk Demir non plus. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ampleur de ces chiffres, elle montre, donc on l'a dit effectivement, l'ampleur du traumatisme, la réaction très massive du gouvernement qui veut frapper un grand coup pour réagir après ce trauma complet qu'a été cette tentative de coup d'État. On est quand même dans un pays où il y a eu des coups d'État tous les 10 ans très régulièrement.
Oui, ça fait partie de l'histoire turque.
Ça fait partie de l'inconscient collectif et notamment de l'inconscient collectif des partis islamistes en Turquie, puisque en 97 on avait déjà un précédent de l'armée qui avait bouté hors du pouvoir politique un premier ministre islamiste. Mais il y a aussi cette idée de l'État. de la façon dont fonctionne l'État en Turquie. C'est un pays qui a des structures institutionnelles qui sont très solides, qui sont très anciennes, et qui sont gérées avec des règles assez strictes. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand j'ai parlé avec des hauts fonctionnaires turcs de la façon dont les purges étaient menées, effectivement, l'idée, c'était on ratisse large et ensuite on verra. Et comme le dit Seljuk Demir, ensuite, il y a des procédures de réhabilitation, il y a une espèce d'ajustement en cours de route.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'État turc n'en a pas profité pour faire le ménage, nécessairement? Parce que c'est un peu l'analyse qu'on peut lire aussi.
Alors, on a une ambivalence au départ là-dessus, c'est qu'effectivement, moi, je peux tout à fait recevoir l'idée que il a fallu faire le ménage. Maintenant, j'ai moi-même, personnellement, la preuve, dans mon travail au quotidien, qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été ennuyés, qui ont eu des difficultés, qui sont actuellement détenus sans acte d'accusation, de manière parfaitement arbitraire.
Et puis il y a quand même des exemples, hein, on peut le lire dans la presse, donc ça c'était dans un article du Monde, un sociologue, Tuğ Akbal, qui a perdu son travail pour avoir signé le 11 janvier 2016, ça fait déjà un an, un appel pour la paix qui dénonçait les opérations militaires turques dans le sud-est, donc opérations contre la rébellion kurde. Est-ce que là, on n'est quand même pas dans une limitation juste de la liberté d'expression, Seljuk Demir?
Alors, la liberté d'expression, madame, évidemment qu'il faut qu'elle soit respectée, mais elle ne peut pas non plus se traduire en un soutien inconditionnel d'un groupe terroriste tel que le PKK, groupe terroriste reconnu comme tel d'ailleurs par la France ou les États-Unis, qui a occasionné la vague à laquelle de plus de 40 000 morts en 40 ans. Il y a une recrudescence du nombre d'attentats du PKK et de Daesh qui font que la situation est extrêmement tendue en Turquie, et le pouvoir judiciaire turc essaie de lutter avec les moyens du bord pour tenter.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre un soutien à un groupe terroriste et une signature, la signature d'une pétition qui appelle à la paix, hein.
Madame, je ne connais pas ce cas individuel et je ne peux pas, et nous ne pouvons pas, me semble-t-il, dans le cadre d'une émission de 20 minutes, réagir sur des cas individuels tels que celui de ce monsieur. Ce que je peux dire néanmoins, de façon générale, c'est que soutenir un groupe terroriste, ce n'est pas une opinion. C'est un délit en Turquie, c'est un délit en France, c'est un délit aux États-Unis. En conséquence de quoi, le pouvoir judiciaire turc agit. Être journaliste, ce n'est pas bénéficier de l'impunité. Avoir une carte de journaliste, ce n'est pas avoir une carte d'impunité. C'est pareil également pour les universitaires ou pour les avocats. De façon générale, il ne faut pas, me semble-t-il, dans le cadre du respect de la liberté d'expression, franchir cette ligne rouge qui consiste à soutenir de façon inconditionnelle un groupe terroriste qui fait du mal à la Turquie, et ce depuis plus de 40 ans.
Dorothée Schmidt, la question qui se pose là, c'est est-ce que aujourd'hui il y a un espace pour une forme d'opposition en Turquie?
Alors, une petite réponse très précise sur la pétition de soutien à la paix avec les Kurdes, ce n'est pas une pétition de soutien au PKK. Je crois qu'il faut être extrêmement clair là-dessus. Et là, je parle très clairement, précisément pour tous les universitaires qui ont été limogés ou arrêtés, de gens dont, pour la plupart, l'ont été faits de façon absolument arbitraire, simplement parce qu'ils exprimaient une opinion qui était contraire à la politique gouvernementale.
Sur laquelle vous n'avez aucune possibilité de regard. Madame Schmidt, c'est-à-dire que vous parlez de dossiers individuels pour lesquels vous n'avez aucun accès au dossier. Enfin, c'est facile, comme ça, de l'extérieur, de commenter
les
choses.
Vous avez accès à tous les dossiers individuels de toutes les personnes dont vous parlez? Il se trouve que je connais personnellement un certain nombre de ces
donc
personnes.
Donc c'est plutôt subjectif comme vision.
Je ne sais pas si c'est subjectif. À partir du moment où vous n'avez pas vu les dossiers, je ne vois pas en quoi votre vision est moins subjective que la mienne.
Vous non plus. Donc à partir de là.
Alors très bien. Arrêtons tout de suite le débat.
De ça, que le pouvoir turc est
dans l'arbitraire. Je vous dis simplement que la pétition, ne fait pas allusion au PKK. Que ce n'est pas une pétition de soutien au PKK. Je m'arrête là.
Alors revenons, faisons avancer le débat puisque là-dessus, de toute façon, vous ne voulez pas vous exprimer. Est-ce qu'il y a la place, l'espace aujourd'hui, la possibilité d'avoir une vraie opposition, d'exprimer une opposition dans la presse, dans la rue, aujourd'hui en Turquie? Parce que l'ampleur des purges nous fait penser que c'est peut-être difficile. Qu'est-ce que vous en savez, Dorothée Schmidt?
Bon, moi, je sais qu'il n'y a plus d'opposition légale en Turquie qui soit réellement possible, parce que la plupart des représentants de cette opposition légale n'ont plus les moyens de s'exprimer tranquillement dans ce pays. Effectivement, on a parlé un peu de la situation de la presse. La Turquie est le pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés dans le monde. Ça concerne pas simplement des journalistes kurdes, pas simplement des gens qui ont soutenu les partis pro-kurdes, ça concerne aussi des journalistes libéraux, ça concerne des journalistes qui naturellement sont associés au mouvement Gulen, qui est considéré comme terroriste par le gouvernement turc aujourd'hui.
Pas seulement.
Mais il y a aussi des journalistes libéraux qui se sont simplement contentés de critiquer le gouvernement, qui sont en prison aujourd'hui en Turquie.
Alors, tous les matins,
je lis la presse turque, je me fais une revue de presse turque, et je lis notamment tous les quotidiens d'opposition qui aujourd'hui peuvent s'exprimer.
Alors, 80% de la presse est contrôlée par le gouvernement en Turquie.
Je peux vous dire que sur les quatre quotidiens les plus répandus en Turquie, ceux qui font le plus de tirages en Turquie, trois sont les quotidiens d'opposition. Hürriyet, Sözcü et Posta. Et tous les jours, ces quotidiens d'opposition font état de leurs opinions, font état de leur point de vue. Alors, par exemple, concernant la réforme constitutionnelle, hier soir, j'ai assisté à une émission télévisée, madame, où un partisan du non au référendum était en face d'un partisan du oui au référendum. C'était sur CNN turc. Moi, je maîtrise le turc, donc je peux regarder la télévision turque et lire la presse quotidienne turque de façon extrêmement, extrêmement simple et sans aucune difficulté. Et je peux vous dire que la presse d'opposition et l'opposition de façon générale peut s'exprimer en Turquie. Le regard qu'on a de France sur l'opposition et notamment le prisme de ces quelques journalistes qui ont été arrêtés et qui feraient dire que l'opposition n'existe pas en Turquie.
150 journalistes turcs sont en prison aujourd'hui. On n'est pas juste à
comme je l'ai dit, avoir une carte de presse, ce n'est pas avoir une carte d'impunité. Et la société civile est extrêmement vive en Turquie. On a plus d'un million de tirages quotidiens de la presse d'opposition.
Alors, on va y venir à la société civile et à comment est-ce qu'elle s'organise, comment est-ce qu'aujourd'hui elle peut s'exprimer. Là-dessus, Dorothée Schmidt, sur le journalisme, est-ce qu'effectivement, prenons l'exemple du référendum qui se prépare le 16 avril pour ou contre les pleins pouvoirs au président Erdogan. Est-ce qu'aujourd'hui on a un vrai débat qui est possible dans les médias en Turquie?
Voilà, vous posez deux questions différentes parce que si, effectivement, si on parle que des journalistes, on a aussi un prisme déformant parce que c'est vrai qu'il y a des aspects corporatistes et que c'est ce qui va nous être reproché. Quel impact a la presse aujourd'hui sur l'opinion en Turquie? Ça, c'est pas évident non plus. En revanche, le fait que les députés du parti pro-kurde au Parlement aient vu leur immunité parlementaire levée, qu'on en ait une douzaine qui sont en prison aujourd'hui, dont les deux coprésidents du parti, me semble aussi quelque chose qui peut mener à une forme d'inquiétude. Je pense que la multiplication des procès pour insulte au chef de l'État touchant d'autres députés d'autres partis est aussi un problème.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, pour la campagne du référendum...
La presse, les partis politiques d'opposition...
Ouais, il y a aussi la possibilité de ne pas inviter certaines personnes parce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'exprimer,
oui,
c'est ce que vous dites,
sous
le choc des murs.
Dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, donc il y a un référendum qui est organisé. On a deux partis d'opposition, le HDP et le CHP, qui de façon extrêmement libre expriment leurs inquiétudes, leurs opinions divergentes concernant ce processus référendaire. Donc en conséquence de quoi, et ça s'est notamment traduit à l'Assemblée, alors de façon extrêmement vive de temps en temps, certes, mais les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, on peut faire état de leurs opinions divergentes concernant cette réforme constitutionnelle. Après,
il y a 59 députés du HDP qui sont emprisonnés.
Qui
ont été arrêtés.
Non. Dont on a levé l'immunité parlementaire. Mais l'extrême majorité.
Pour quelle raison
l'extrême, vous la connaissez la raison, madame Schmidt, qui est spécialiste de la Turquie. L'extrême majorité.
Mais vous êtes juriste.
Des députés.
Vous êtes juriste.
Oui.
Vous nous le dites suffisamment souvent.
L'extrême majorité. Des députés du HDP aujourd'hui sont libres, sont à l'Assemblée nationale, et ceux qui ont été arrêtés et détenus l'ont été dans le cadre de procès judiciaires du chef d'inculpation de soutien au PKK, parce que notamment, certains députés du HDP ont ouvertement fait état de leur soutien à ce mouvement terroriste qui occasionne des attentats de façon extrêmement importante ces derniers mois et a occasionné 40 000 morts depuis 40 ans. Donc, quand on est député, on a aussi une responsabilité devant la loi. L'ensemble des députés ont vu leur immunité parlementaire levée. Certains ont été traduits devant la justice, pas tous. Il faut reconnaître, me semble-t-il, le fait que ce n'est pas l'ensemble des députés de l'opposition qui sont touchés par ces investigations judiciaires. Et ce n'est qu'une extrême minorité. Et il faut étudier au cas par cas, madame Schmidt,
les raisons
pour lesquelles ils sont traduits devant la justice.
Alors, je voudrais qu'on en arrive à cette fameuse société civile, puisque je rappelle que nous parlons ce soir de la possibilité d'un espace de débat dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Dorothée Schmidt, est-ce que aujourd'hui il y a une forme de mouvement de résistance qui s'est formé? Alors, on parle beaucoup aux États-Unis, par exemple, avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence, d'une société civile qui s'est réveillée, qui agit, qui manifeste. Comment ça se passe aujourd'hui en Turquie?
Non, je crois qu'on n'en est pas là. L'atmosphère est quand même très plombée en Turquie. La dernière fois qu'on a eu des grandes une espèce de grand élan d'opposition du type de celui que vous évoquez, c'est au moment de Gezi en 2013. C'est un mouvement qui a fait pchit. Bon, il a été maté, mais il a été aussi, désamorcé de façon assez intelligente par Tayyip Erdogan à l'époque.
Alors, on peut peut-être rappeler pour les auditeurs
alors, Gezi,
en deux mots.
C'est la grande mobilisation de la société civile contre la destruction d'un espace vert au cœur d'Istanbul, qui avait finalement rallié un peu toutes les forces anti-Erdogan de l'époque. et qui avait été un grand élan.
Office d'étincelle, hein, c'est un petit peu ce que
oui,
vous dites.
Oui, sauf que ça s'est arrêté très rapidement. C'est-à-dire que fin 2013, c'était réglé. Et puis après, on a eu le déclenchement de la guerre, entre guillemets, entre Fethullah Gulen, qui est aujourd'hui accusé d'être derrière le coup d'État militaire par le gouvernement.
Et dont la Turquie demande l'extradition par les États-Unis.
Et on a surtout eu des élections qui ont consacré la victoire de l'AKP et du président Erdogan à plus de 50% des votes. Ce qui veut dire en novembre. On a un parti politique, en novembre 2015, on a un parti politique qui, depuis 15 ans, madame, gagne toutes les élections.
Il y a eu des élections en juin, en novembre, dans le cadre, si vous ne vous trompez pas, on les a refaites en novembre
dans le cadre,
parce qu'il les a perdues en juin.
Dans le cadre du respect du droit de vote et des règles démocratiques de base, ce qui d'ailleurs est une singularité au Moyen-Orient, on a un pays qui fait confiance à un parti politique depuis 15 ans.
Même parti politique qui gagne l'ensemble des élections. Il est vrai que l'AKP remporte les élections, là-dessus, on est absolument d'accord, mais néanmoins, il perd du terrain. Est-ce que c'est
perdu le terrain sur quoi, madame?
Il a eu moins de voix qu'avant, il a perdu la majorité
51%
absolue.
51% aux dernières législatives, madame.
Juste avant, c'était un petit peu moins.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'il y a une forme de décrochage des soutiens classiques à l'AKP dans la population turque, Dorothée Schmidt?
Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est la première fois que j'entends ouvertement dire que la Turquie est un pays du Moyen-Orient et entendre cette comparaison
pas un pays du Moyen-Orient,
vous venez de
madame
le dire.
Schmidt.
La Turquie est à cheval entre l'Europe et le Moyen-Orient.
Et en quoi ça vous gêne, cette classification géographique?
Ça me gêne pas, c'est la première fois que j'entends quelqu'un le dire de manière ouverte pour valoriser le système électoral turc. Bon,
mais alors, la démocratie turque est une singularité dans la région.
Alors, la Turquie veut entrer dans l'Union européenne, si c'est un pays du Moyen-Orient, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors là, ce soir, vous avez réglé la question.
Non, je ne l'ai pas réglé déjà, c'est pas à moi de la régler, la question. Et ensuite, je pense qu'on n'a pas besoin d'être universitaire pour savoir que la Turquie est un pays du Moyen-Orient. Enfin, je passe.
C'est un autre débat. Mais sur l'évolution aujourd'hui de l'opinion turque, est-ce que c'est une analyse qui est possible que de dire qu'à la fin des décrochages ou pas du tout? Il est toujours très soutenu.
Effectivement, si quand on a des élections, la KP gagne les élections, ce qui est le cas depuis 2002 avec entre 40 et 50% des suffrages, c'est juste, ça ne signifie pas que le reste de la population doit se retrouver en tôle.
Tout à fait, mais le reste de la population n'est pas en tôle. Ces simplifications de la part d'une universitaire, moi, me sidèrent, madame Schmidt.
La mauvaise foi de la part d'un avocat ne m'étonne pas.
En tôle, une universitaire se disant spécialiste de la Turquie, nous dire ce soir que l'opposition est en tôle alors que 50% de la population vote l'AKP. Enfin,
alors je connais aussi beaucoup de gens qui juste n'ont plus de passeport.
On n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'il faut aller vers la simplicité.
Tout le monde n'est pas en prison.
Mais là, on est dans la simplification à outrance.
Tout le monde n'est pas en prison. Beaucoup de gens ont quitté la Turquie. D'autres n'ont pas de passeport et ne peuvent pas quitter la Turquie de plus en plus. Moi, j'ai énormément d'amis universitaires qui se sont vus retirer leur passeport.
Et vous maintenez que l'opposition est en tôle? C'est ce que vous nous dites ce soir, madame Schmidt.
Une partie des opposants sont en prison. Une partie s'est vue retirer son passeport et une autre partie a déjà quitté la Turquie. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de débat en Turquie.
Et la plupart des opposants sont représentés au CHP et au HDP, ont vocation à s'exprimer à l'Assemblée nationale.
Sont menacés de mort.
Écrivent tous les jours.
Très régulièrement.
Mais alors attendez, Dorothée Schmidt, vous avez, parce que là vous discutez, mais il y a des auditeurs qui nous écoutent. Vous venez de nous dire qu'il n'y a aujourd'hui plus de débat possible en Turquie. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont quand même pas une forme d'espace où là il y a encore une forme de liberté? En un mot, il nous reste plus beaucoup de temps.
Les réseaux sociaux sont très contrôlés en Turquie. Dès qu'on a un incident, on tombe dans la boîte noire. Twitter est suspendu. Des comptes YouTube sont fermés. Facebook.
Mais vous parliez de Gezi, c'était là aussi. Que ça avait un petit peu émergé
justement.
Au départ.
C'est justement depuis Gezi qu'on a un contrôle qui est très sévère des réseaux sociaux par le gouvernement turc.
C'est toujours des miens.
De façon générale, la société civile est extrêmement active. On a des journaux d'opposition qui peuvent s'exprimer, des députés qui tous les jours débattent à la télévision privée et publique de cette question du référendum. Moi, je me demande quand Mme Schmidt a pour la dernière fois mis les pieds en Turquie, parce que réellement,
alors on va peut-être éviter
sa lecture
les
choses ne correspond pas à la réalité de la situation
en Turquie. On va peut-être éviter les attaques personnelles. Merci beaucoup. En tout cas, les auditeurs auront pu entendre quels étaient les arguments des deux côtés. Merci à Dorothée Schmidt, spécialiste des questions méditerranéennes, auteur de La Turquie en 100 questions, qui est tout juste paru aux éditions Taillandier. Merci à Selçuk Demir, président des juristes franco-turcs, conseiller juridique du consulat de Turquie à Paris. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. C'est la fin de RFI Soir. On se retrouve demain pour un nouveau débat.